Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Les situations laborieuses condensent les marques de l'histoire humaine à travers les connaissances présentes dans les systèmes productifs, les technologies, les organisations et les procédures utilisées, aussi bien que dans les rapports sociaux qui entourent et disposent les hommes producteurs. Toute activité de travail rencontre aussi des savoirs disposés dans les instruments, les techniques et les dispositifs collectifs qui font que toute situation de travail est saturée de normes de vie, des formes d'exploitation de la nature et des hommes entre eux. Ces rencontres problématiques entre l'homme et son milieu n'est jamais anticipable dans son intégralité par les biais des concepts disciplinaires et ou des normes gestionnaires politiques, économiques, sociales et techniques. L'activité de travail est le creuset de l'organisation de ses savoirs et valeurs. Dans cette perspective, il est fondamental de confronter des savoirs académiques et des savoirs développés par les travailleurs. En cela, l'approche ergologique nous propose une épistémologie du travail humain en tant que réalité complexe qui associe les conditions réelles de production et les résultats qui y en découlent. L'entrée par les valeurs et les savoirs de l'homme producteur face aux normes antécédentes ouvre un chemin aux chercheurs pour découvrir l'humanité présente dans tout acte de travail. Comme vient de le dire Schwartz, la forme dialoguée nous aide à découvrir nos savoirs, mais aussi nous en savoir sur les notions quotidiennement manipulées par nous. Cependant, pour qu'un dialogue puisse s'instaurer, il faut se donner un projet commun. Dans le contexte brésilien, marqué par la faible institutionnalisation du droit d'adulte illettré et ou avec peu scolarité, les initiatives de formation d'adultes menées par les organisations de la société civile prennent essor. Parmi elles, les initiatives populaires et d'autres liées aux mouvements sociaux en général, aux organisations politiques et syndicales. Dans notre histoire, cette tradition brésilienne de l'éducation populaire va rencontrer l'idée de communauté scientifique élargie proposée par Ivar Rodon et l'approche ergologique de l'activité humaine à travers des dispositifs dynamiques anthropologiques, qui sont des sources d'inspiration théorique méthodologique, invitant à tirer de nouvelles conséquences épistémologiques, axiologiques et politiques de l'expérience de travail. Le projet Connexions de savoir sur travail répondait à une demande de l'École syndicale 7 de octobre et de la Centrale unique des travailleurs. Financée par le ministère du Travail, cette école syndicale et l'UFMG, ses activités se sont déroulées entre 2005 et 2008 avec 28 syndicalistes travailleurs de base venus de quelques grandes entreprises représentant la diversité minière des États de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, zinc, plomb, or, ferro, marbre, granito, fosfato, bauxite, argila, urânio, provenant de plusieurs fonctions et de différents temps d'expérience. Dans ce projet, nous avons réuni 4 laboratoires de recherche dans les domaines de l'éducation, ergonomie, médecine, psychologie, rassemblant la présence multidisciplinaire de chercheurs, étudiants, licences, masters et doctorants. La dynamique instaurée consistait en établir un dialogue entre les participants, situation de lecture et écriture collective, exposé de part à part sur des sujets précis, séminaire avec des invités, restitution autour de textes écrits, entretien collectif d'explicitation, etc. Dans le cadre brésilien, l'absence d'un droit à la formation continue rend impossible de rencontrer des travailleurs dans des dispositifs comme celui-ci sans la contribution des syndicats. Néanmoins, ces activités ont dû se dérouler dans les week-ends sur les temps libres des travailleurs. À la fin de chaque rencontre, un bilan collectif aidait à planifier l'ensemble des activités du prochain rendez-vous, contenu, thème, type d'activité, invité. Cette culture de bilan processuel a été fondamentale dans la conception et la conduite collective du projet. Les travailleurs y participent tous les temps. Il a rendu possible une systématisation des acquis de l'ensemble des activités développées. Une première formalisation de ce qui a été produit au cours de cette expérience a été présentée dans un kit avec 2 ouvrages de CD-ROM distribués auprès des noyaux de recherche des mouvements sociaux. Les histoires racontées par les mineurs montrent les renormalisations qui s'opèrent à travers les usages qu'ils font d'eux-mêmes dans leur situation de travail. Selon leurs normes propres, leurs valeurs et leurs savoirs, un dialogue avec les configurations diverses des milieux de travail et de vie. C'est Diomedes, chauffeur de camion hors route, mineur de fonte dans la mine de Moragud, qui raconte comment il se prend pour gérer les difficultés du travail posté. Entre 1 et 7 heures du matin, il est compliqué, parce qu'on a beaucoup de sommeil, n'est-ce pas? On monte, c'est une route qui monte, et les camions roulent très doucement dans la route 2, par exemple. C'est à une vitesse de 8 km par heure, on monte, tu as sommeil, tu essaies de résister, tu fermes les yeux comme ça, et quand d'un coup s'ouvre de piste en face de toi, et alors tu sursautes, et tu freines l'équipement dans ces sursauts que tu as, car tu es dans le début d'un sommeil, quand tu es en démarrant le sommeil et pas encore endormi, et réussissant à voir quand même. Mais il est compliqué, et on passe ce moment, on arrête, on prend l'eau glacée, parce qu'on a une petite bouteille qu'on descend avec, une petite bouteille d'eau glacée qu'on remplit, parce qu'on passe beaucoup de soif si on n'amène pas. Alors, on la prend, on lave le visage, on jette un petit peu dans la nuque, et on réveille d'un coup là. Et je continue mon voyage. Et quand on lui demande pourquoi il prend tous ces risques, il répond, être mineur, c'est ça. Être mineur, c'est lutter contre les risques. Et être mineur, pour moi, c'est surtout l'amour que j'ai pour ma famille, car les risques que j'ai subis, c'est pour eux. Un autre chauffeur, dans cette même mine, racontera comment ils cachent dans les routes de fuite un peu de leur production pour faire monter quand ils ont une grosse demande. À travers de multiples exemples de ce type, se dévoile ainsi comment les entités collectives locales renormalisent au quotidien les décisions de gestion des dirigeants employeurs. On voit aussi comment derrière les opérations de nomination et renomination émergent des histoires locales et ou des cultures professionnelles des situations de travail. Le langage des travailleurs exprime un usage individuel des sources linguistiques, mais exprime aussi celui des collectifs auquel ils participent. Plusieurs histoires marquent l'usage des termes comme pion de trecho, chat pour les entreprises, révélant que les jargons, les transgressions des dénominations officielles représentent des façons collectives de parler, connaître et s'approprier de la réalité du travail. Et même de construire des rapports sociaux et affirmer des identités dans l'espace de travail. Ce processus, un mouvement continu, produit, évalue, négocie, modifie les interactions des collectifs de travail, démontrant les caractères sociaux du travail et la composante linguistique comme dimension inévacuable des activités productives. C'est Fortin, mineur dans les marbres et les granites, dans l'Espírito Santo, qui nous raconte les histoires chargées de peur, de risques, de mort et de mutilation. Je cite, « Tout le monde travaille avec appréhension, avec peur de la mort. Cette peur, on a tous les heures, et on ne peut pas perdre cette peur parce que si on la perd, on peut avoir un accident. Parce que quand on est trop confiant, je pense que c'est là que les accidents viennent dans les carrières. » Dans le langage des mineurs, ne et saute du chat peuvent représenter respectivement un acte de rébellion, de sabotage ou un savoir de métier connu par les copains. Selon Filipão, escavadeirista dans la mine de Conceição, à Itabira, je cite, on sait faire le nœud, mais son résultat ne nous appartient pas. Le résultat de cela échappe à mon contrôle. Et dans les histoires de nœuds sont apparus les matacos. Grande pierre qu'on jette dans les concasseurs, britadores, pour qu'ils s'arrêtent. Je cite Filipão. Pendant ce temps, quelqu'un allait réparer les concasseurs et nous, on pouvait s'y reposer un peu. Avec la poudre bleue, c'est pas possible de faire ça, non. Les histoires autour de ces minéraux poudre bleue, blue dust, nous ramènent au sentiment d'angoisse, de peur que sentent les mineurs de la compagnie Vale do Rio Doce qui exploite le minerai du fer dans la ville d'Itabira, Minas Gerais, à nouveau Filipão. Dans la Vale do Rio Doce, existait un minéral appelé Blue Dust. Il arrivait un taux énorme de fer, entre 64 et 72 de taux de fer. Alors, il entraînait tout ça en nous. On avait angoisse, peur, préoccupation. Parce qu'on retirait le minéraux, on les mettait dans les camions, les jetait dans les concasseurs et les jetait directement dans les wagons pour partir. Alors, ça ne donnait pas de marge de pause pour nous. Alors, il disait que ceux qui travaillaient avec le minerai restaient fous. C'était le minerai du diable. Tombait dans les concasseurs, tombait dans les convoyeurs, tombait dans les silos de chargement et partait. Donnait fatigue. Rien que de le voir était déjà fatigant. Philippon nous parle encore de la privatisation de l'entreprise au début des années 80, vécue dans sa densité conjoncturelle historique où s'entremêlent les dimensions locales et globales de transformation. Aujourd'hui, la Vale du Rio Doce n'a pas de frontières, il dit. Tu peux commencer à travailler ici, à Itabira, et finir ta journée en Brucutu, lá em Santa Bárbara. Ou tu peux commencer ton travail ici, à Itabira, et finir em Mozambique. La Vale n'a plus de frontières, les frontières sont finies. L'universal de transformation en cours au Brésil, dans les tournants néolibérales de privatisation des entreprises publiques et les expériences vécues au singulier des dimensions dans les terrains de mines étaient aussi des histoires de Philippon. Après la privatisation, la première chose qu'ils ont commencé à finir, c'est avec cette chose du transport lourd. On avait les placards où on posait nos objets personnels, alors c'est fini le secteur du transport lourd, c'est fini l'aconchego, l'ambiance chaleureuse. Aujourd'hui, tu ne réussis plus qu'un groupe très petit pour faire un petit barbecue dans les week-ends. Le principal, dans mon cas, était de finir avec la convivialité de groupe. La privatisation a mené cela. Elle a dispersé tout le monde. On partageait cette haine, cette insécurité, on partageait avec les gens, avec les chauffeurs aussi, on partageait les mauvaises conditions de la route, nos problèmes de dos. Alors, tous nos plaintes, tous nos problèmes étaient discutés là-bas. Alors, on passait 6 heures, 8 heures avec les mêmes gens. Aujourd'hui, à chaque moment, tu es avec une personne différente. Et cela crée cette distance qui finit la convivialité, parce que je dois surveiller mon collègue, pas dans le sens du soin avec lui, mais dans le sens que s'il fait des bêtises, il va se foutre en l'air et avec moi. Alors, il n'y a pas ce rapport de soin, d'amitié. La privatisation de l'entreprise a cassé cette convivialité parce qu'on n'a plus cette préoccupation avec le social, mais avec le profit. Comme d'autres, cette histoire rompt avec une opposition tranchée entre vie et travail et vie en général. En même temps, elle rappelle les élans axiologiques qui nous, les collectivités, dans les milieux de travail, et révèle les sentiments d'appartenance d'identité construits dans le passé et qui s'interpose au présent de l'exercice du métier. Quelle est l'angoisse d'être mineur? Philippon répond. C'est l'angoisse de travailler seul. Parce que l'avance technologique a amené plus de productivité, une plus grosse sécurité, mais elle a amené aussi la solitude. Au bout de ces 3 ans en commun, les acquis ne sont pas négligeables. Les dimensions éducatives du dispositif ressortent dans la voix des mineurs. Chacun amène un peu de soi d'où il vient. Cette manière de comprendre et d'agir dans la formation par les dialogues nous rappelle les idées pédagogiques de Paulo Freire. J'ai pensé que j'allais m'asseoir comme dans un cours absorbant. Ici, l'interaction est trop chouette. On apprend avec l'autre. Les travailleurs pensent qu'ils sont ignorants, ne savent pas parler bœuf. Les connexions ont cassé ceci. Les dialogues apportent aux mineurs des connaissances sur la diversité des situations dans l'activité minière au Brésil. La possibilité, quelqu'un dit, la possibilité d'ampliation de l'horizon quand on va à la rencontre de l'autre pour savoir plus sur son travail et sur son propre travailleur à favoriser les connexions. Les dialogues, ils ont ouvert à tous l'occasion d'apprendre davantage sur les spécificités de la minération, une nouvelle compréhension plus dialectique du processus productif et une reconnaissance du travail en tant qu'expérience humaine d'un temps historico-social. Pour les mineurs, ces connexions ont été l'occasion de réfléchir sur les réserves d'alternatives dont ils disposent pour transformer leur situation de vie et travail. Même s'ils avaient déjà une très grande compréhension de leur rôle social, tous ces minerais sortent d'ici, d'un trou, même qu'il soit à ciel ouvert, mais il est sorti de nos mains, de la main d'un travailleur mineur. Cela n'est pas valorisé par la société. Elle ne voit pas cela parce que nous sommes cachés. Ils se sont renforcés dans leur identité professionnelle et personnelle. Je ne suis pas un pion et je ne me sens pas ainsi un truc qui peut être jeté et dominé. Je suis un travailleur qui contribue à la société. D'autre côté, ces dispositifs reconfigurent les champs de questions dans tous les domaines d'études sur le travail humain. Il est un terrain fertile d'interpellation de savoir institué. Il nous ouvre les voies pour des questions plus larges sur le plan économique et culturel, interpellant les gestionnaires et les institutions politiques dans leur façon de planifier et de gouverner le travail. Source de matière à penser, il enracine la production de savoir dans les demandes urgentes émergentes de l'activité de travail. La centralité de la forme dialoguée, de nos échanges et les demandes d'éclairage en temps réel face à la dureté de ces expériences d'être mineur aujourd'hui, entraîne un déplacement dans les rapports savoir-pouvoir pour la production de connaissances, comme dans l'exemple du dialogue entre Francisco Lima, l'ergonome, et Philippon, l'escavadériste. Comment tu sais qu'un escavadériste est bon? Demande Chico. C'est dans les sauts du chat. Parce que si je suis un bon opérateur, je n'ai pas besoin d'une machine auxiliaire pour me maintenir dans les niveaux. Mais comment on fait bien ces sauts du chat? Avec l'œil? Demande Chico. C'est l'œil, c'est la main, parce que le joystick est très sensible. C'est la main ou c'est l'œil? Tu regardes et ta main manœuvre. Si le matériel est plus gros et tu t'appuies trop légèrement, ça va monter. Si le matériel est plus fin et tu t'appuies trop fort, ça va descendre. Mais comment on sait que le matériel est plus fin ou plus gros quand on est dans la machine? Dans la machine, on sent. On sent dans le tremblement. Et comment on sent? Avec la main, avec le corps, avec l'œil, insiste Chico. C'est dans le tout, répond Philippon. C'est là où Paulo Freire nous dirait « L'éducateur est celui qui d'un coup apprend » et que Schwartz parlerait dans un confort intellectuel de comment évaluons-nous les catégories et concepts par lesquels nous décrivons le travail à distance relative de ce qui trame en lui dans sa durée opérative. Là où se joue ces dramatiques qui font histoire et réinterrogent nos régimes de savoir, de production de savoir. Une analyse rigoureuse du travail ne peut pas se faire sans passer d'une ouverture aux dimensions axiologiques qui sont en jeu dans les situations laborieuses qu'on observe. Et est en cela que l'usage de notre capacité à conceptualiser est plein de valeur et de choix plus ou moins conscients à opérer, en ayant en vue les réserves d'alternatives présentes dans les situations de travail rencontrées. Cela implique, pour finaliser, de rencontrer les protagonistes du travail entre leurs usages de soi par soi et leurs usages de soi par les autres au croisement des dialectiques historiques qui transforment en permanence les configurations du vivre en commun. Merci.